Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance.
À mi-chemin entre FinTech et RetailTech, le paiement fractionné au service des commerçants. Louis Chatriot, CEO et cofondateur d'Alma à Paris.
En étant chez Stripe, en écoutant ses marchands, j'ai reconnu sur le paiement plusieurs fois exactement ce qui s'était passé sur le paiement tout court quelques années auparavant. Et donc tu te dis, attends, c'est quand même pas possible. Il y a un marché qui est juste colossal, il y a une demande des marchands, un besoin qui est gigantesque, personne qui veut l'adresser. Le paiement plusieurs fois pour un commerçant, c'est plus de 1% de chiffre d'affaires, c'est juste une nécessité absolue. Et tu as quasiment la moitié du marché français qui n'était pas adressé au moment d'annoncer Alma. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé.
Avec renfort de détails et explications, Louis nous aide à comprendre ce qu'est le paiement fractionné et comment ce dernier est mis en œuvre par Alma. Cette société avec un fort ADN de commerçants développe ses solutions tant pour les boutiques physiques que les boutiques online. L'expérience utilisateur y est décrite de manière très claire côté commerçant et côté consommateur. Vous découvrirez dans quel ordre Alma a su tacler les problèmes sans y passer des années du cadre légal en passant par les algorithmes de scoring de risque. On revient dans cet épisode sur la gestion du risque client en fractionné par rapport au crédit conso traditionnel et sur la criticité du taux d'acceptation pour les commerçants et donc pour Alma. Nous abordons également l'évolution des algorithmes vers le machine learning et la culture d'entreprise de franchise radicale ou radical candor de Alma. Un concentré d'infos ultra pragmatiques pour comprendre comment développer un business dans un secteur hautement régulé. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous. Bonjour Louis.
Bonjour Solène.
Alors, bon, la petite histoire quand même, c'est que c'est le deuxième enregistrement que nous faisons avec Louis puisque j'ai complètement foiré la carte SD la dernière fois qu'on s'est parlé. Merci beaucoup Louis d'accepter de me reparler à nouveau pour cette demi-heure sur FinScale. Alors, comme on se le disait la dernière fois, ton expérience chez Stripe a été assez décisive hein, pour la suite des événements. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous faire un petit focus sur Stripe ?
Ouais, avec plaisir. Écoute, donc comme tu l'as dit, avant de créer Alma, je travaillais chez Stripe. Moi, à la base, j'ai un background d'ingénieur. Je pense que ça joue pas mal sur le choix de m'être attaqué à un problème comme Alma, qui est un problème entre la finance, le paiement, donc un problème qui est en fait par nature extrêmement technique. Et donc oui, si on parle un peu de l'origine d'Alma, effectivement, je travaillais chez Stripe dans un rôle de développement commercial en France et en Europe du Sud. Et il y a un truc qui m'a fasciné depuis le début chez Stripe et qu'on a appliqué ensuite chez Alma, c'est que Stripe, c'est une boîte qui a été extraordinaire, surtout dans la distribution. Donc, ils sont connus pour le produit, mais là où ils ont été vraiment très, très forts, c'était vraiment dans la distribution, c'est-à-dire la capacité à adresser des segments de marché qui étaient que leurs concurrents, donc étaient des grandes banques établies, refusaient d'adresser, ou alors acceptaient d'adresser, mais à des conditions extrêmement difficiles. Et je pense que ce qu'ils ont bien fait, c'est de créer justement un produit, une infrastructure de paiement qui permet de travailler avec le petit comme avec le gros, avec un niveau de qualité extrêmement élevé. Mmh. Et en fait, nous, ce qu'on a fait chez Alma, c'est exactement ça. On s'est rendu compte, quand j'étais chez Stripe, qu'on avait des milliers de marchands qui cherchaient des solutions de paiement plusieurs fois et qui n'en trouvaient pas, qui n'étaient pas satisfaits de ce qui se faisait sur le marché. Et historiquement, ce qu'on avait vu, c'est que un des gros points de frustration, c'était l'expérience marchand. C'est-à-dire, si j'utilise une solution bancaire, soit ils vont refuser de travailler avec moi parce que je suis trop petit, ou ils vont accepter, mais en fait, comme je suis tout petit pour eux, ça va être long, je vais jamais être leur priorité. Et en fait, moi, j'ai besoin de quelque chose de simple que je peux déployer rapidement. Et en fait, on a reconnu, si tu veux, j'ai reconnu en étant chez Stripe, en écoutant ces marchands, j'ai reconnu sur le paiement plusieurs fois exactement ce qui s'était passé sur le paiement tout court quelques années auparavant. Et donc, tu te dis, attends, c'est quand même pas possible. Il y a un marché qui est juste colossal, il y a une demande des marchands, un besoin qui est gigantesque, personne qui veut l'adresser. Tu vois, le paiement plusieurs fois pour un commerçant, c'est plus de 1% de chiffre d'affaires, c'est juste une nécessité absolue. Ouais. Tu as quasiment la moitié du marché français qui n'était pas adressé au moment d'annoncer Alma. Donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé.
Alors, tu parlais, quand on avait préparé cet entretien, de la différence entre l'ADN banque et l'ADN marchand. Est-ce que tu pourrais revenir sur ça ? Parce que je pense que c'est assez central pour vous, cette DNA chez Alma.
Oui, absolument. Je pense que tu sais, et c'est même un point qui est plus global que juste Alma. Quelque part, c'est assez rare quand tu regardes des startups, des entreprises qui réussissent grâce à, tu sais, un différenciant technologique majeur. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple parmi des milliers d'autres, mais Facebook, depuis le début, alors maintenant c'est moins vrai, mais au tout début, n'utilisait pas de technologie invraisemblable. C'était des technologies sur étagère, sur des concepts très simples à mettre en œuvre techniquement. Ce qui te fait gagner, c'est beaucoup moins, en tout cas à mon sens, un différenciant technologique, par exemple, au début en tout cas, qu'une approche, en fait, un ADN, une compréhension des marchés que les autres n'ont pas. Et si tu veux, nous, ce qu'on a vu, ce que les marchands nous ont expliqué, hein, ce que les personnes qui ont travaillé aujourd'hui nous ont expliqué, c'est que les solutions, le paiement plusieurs fois, c'est évidemment un type de crédit, et donc assez naturellement en France, les acteurs qui se sont emparés du sujet sont des entreprises de crédit, donc des professionnels du crédit, qui font du crédit, à la fois du crédit très court terme, comme le paiement fractionné, ainsi que du crédit beaucoup plus long, sur plusieurs années. Et en fait, ce que nous remontaient les marchands, c'est un peu de frustration par manque d'ADN retail de leurs interlocuteurs, c'est-à-dire ils sont des banquiers qui connaissent très bien leur métier de banquier, mais ils connaissent pas très bien notre métier de commerçant. Ouais. Et nous, on cherche en fait une entreprise qui a cet ADN de commerçant. Et nous, depuis le début, si tu veux, on voit Alma, bien entendu, on voit Alma comme une fintech dans le sens où on fait de la finance, on lève de la dette, on a du scoring de crédit, on gère l'infrastructure du paiement, il y a une notion de technicité, il y a une notion de précision évidemment très importante pour nous. Mais on se voit encore plus comme une retail tech, c'est-à-dire comme une entreprise au service du retail, au service du commerce. Le but d'Alma, ADN d'Alma, ce qui nous fait vibrer, c'est le commerce. Comment est-ce qu'on fait pour aider le commerce? Comment est-ce qu'on fait pour aider des boutiques, qu'elles soient grandes comme petites, quelle que soit leur industrie, quelle que soit leur marque? C'est ça qui nous fait vibrer. Et forcément, ça va se voir à la fois dans le produit, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a conçu ce produit de paiement plusieurs fois, qu'on a conçu comme extrêmement simple, qui permet de maximiser le taux d'acceptation pour le client, mais également sur tous les processus, la manière dont on traite les clients. Je vais prendre juste un exemple qui est, à mon avis, très important. Chez Alma, on a évidemment pas de frais cachés, mais surtout on essaye autant que possible de ne pas imposer de frais de pénalité de retard aux clients qui payent en retard. Pourquoi est-ce qu'on le fait? On fait ça comme ça parce que, en fait, quand tu es commerçant, il n'y a rien de plus important que l'image de marque. Que ce soit commerçant en ligne ou en boutique, ce qui est important pour toi, c'est que tes clients reviennent. Et tes clients, ils reviennent évidemment s'ils ont une bonne expérience, c'est-à-dire ta boutique ou ton site web est bien foutu, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, il y a un super service client, la livraison s'est bien passée et surtout le paiement s'est bien passé. Si jamais la solution de paiement plusieurs fois, sous prétexte que tu as 3-4 jours de retard, commence à te harceler complètement pour que tu payes maintenant, tu vas garder non seulement une très mauvaise opinion de la boîte de paiement, mais surtout une mauvaise opinion du marchand lui-même. Tu vas plus y aller. Et donc nous, notre but, si tu veux, dans cette solution, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour protéger et même pour améliorer l'image de marque des commerçants. Ça passe aussi par prendre des décisions qui sont peut-être pas complètement optimales au niveau financier pour Alma, mais qui sont optimales pour le commerçant.
Tout à fait, merci beaucoup. Alors, si on reprend vos clients, tu parles donc des boutiques, on a en tête les boutiques en ligne, mais également les boutiques physiques. Historiquement, moi, je le vois encore maintenant, hein, quand tu souhaites payer en plusieurs fois, tu remplis de la paperasse papier. C'est lourd, c'est coûteux, c'est complexe. Il y a quand même toujours le risque que le commerçant derrière ne soit pas correctement payé. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement comment votre produit s'est construit sur base de l'existant d'un point de vue aussi expérience utilisateur, comment ça se passe tant pour les boutiques en ligne que pour les boutiques physiques?
Oui, absolument. Je pense que, alors, il y a un point qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est, tu sais, cette espèce d'opposition qui est d'ailleurs une opposition qui n'a pas beaucoup cours, hein, entre des sites e-commerce d'un côté et des boutiques physiques de l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que le e-commerce est beaucoup plus récent que le commerce physique et donc paradoxalement beaucoup plus moderne. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu as quelque chose qui marche un peu, tu sais, c'est pas parfait, mais bon, ça fait une partie du boulot, c'est difficile de sauter le pas et de changer versus j'ai rien, il me faut quelque chose. Ce qui fait qu'effectivement, c'est bien sûr quasiment que dans les boutiques physiques qu'on va retrouver les solutions de paiement fractionnées basées sur du papier. Et comme tu l'as décrit, hein, c'est des solutions qui sont absolument horribles pour le client final parce que et pour le commerçant, parce que grosso modo, non seulement tu dois remplir du papier, donc ça prend du temps, c'est juste extrêmement lourd comme process, mais surtout c'est asynchrone, c'est-à-dire que t'as pas la réponse tout de suite. Donc le commerçant, il fait quoi? Il te laisse repartir avec ta télévision et peut-être que le crédit sera accepté, peut-être qu'il ne le sera pas, et qu'est-ce qu'il fait si le crédit n'est pas accepté. Donc c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre, mais c'est une solution qui existe depuis avant Internet. Donc c'est quasiment plutôt c'est plus de l'inertie qu'autre chose. Et effectivement, c'est vrai que ce qu'on a fait, nous, ce qu'on fait pour les boutiques physiques, sont des solutions d'acceptation qui sont synchrones, c'est-à-dire que tu demandes l'acceptation d'Alma, on te dit en temps réel oui ou non, et donc en fait, quand le commerçant te laisse repartir de la boutique, il sait déjà s'il va te payer ou non. Une fois qu'on a dit oui, évidemment, le risque de crédit, le risque d'impayé, il est pour nous. C'est nous qui remboursons le commerçant. Enfin, en tout cas, on ne facture pas, on va dire comme ça. Et donc du coup, en online, si tu veux, bah, c'est la même chose, mais en plus simple, puisque là, pour le coup, tu es juste dans un tunnel de paiement online classique, tu es en bout de fil, tu as rempli ton panier, tu choisis ta méthode de paiement, tu sélectionnes le paiement en 3-4 fois avec Alma, tu nous donnes quelques informations, notamment tes infos de carte bancaire, et encore une fois, tu es scoré en temps réel, c'est-à-dire qu'on va décider si oui ou non on t'accepte, et si on t'accepte, on notifie le commerçant et c'est fini.
Et d'un point de vue pratique dans les boutiques, désolé de rentrer dans le détail, mais comment ça va se passer? Donc, ton commerçant va te proposer sur une tablette. Comment techniquement ça se passe? Ou est-ce que le client doit télécharger l'app Alma sur son portable?
Oui, alors, sois pas désolé de rentrer dans le détail, je pense que c'est surtout ça qui est intéressant. Toujours facile, entre guillemets, de rester dans le vague, plus intéressant, je trouve, de rentrer dans le comment ça marche pour de vrai. Ouais. Ce qui se passe dans la plupart des boutiques, c'est qu'en fait, le commerçant va générer, généralement, il va le faire via une application qu'on met à sa disposition, et de temps en temps, il peut le faire aussi via son application de caisse, son logiciel de caisse. Il va générer, en fait, un lien de paiement. Ce lien de paiement, c'est un lien qui va, en fait, donc représenter ton paiement chez lui, il va te l'envoyer par SMS, toi cliente, et donc en fait tu prends ton smartphone, tu ouvres le lien de paiement et tu finalises la transaction sur ton téléphone. Ce qui est très important, c'est que tu n'as pas besoin, si tu veux, de télécharger une application Alma. Et ça c'est hyper important, ce que j'ai dit tout à l'heure, encore une fois. Nous on n'est pas des banquiers, d'accord ? On est des commerçants quelque part, en tout cas des technologies pour les commerçants. Et donc notre but, c'est évidemment de réduire la friction, de faire en sorte que tout soit le plus facile possible pour le client final. Et évidemment, si jamais, tu imagines, tu es à la caisse, tu dois d'abord télécharger une application sur le Play Store, je veux dire, c'est juste pas possible. Tu peux pas demander, après tu dois créer un compte avec un login mot de passe, tu dois rentrer certaines informations. Enfin, je veux dire, non, t'es là, t'as ta télé, tu veux la payer, tu veux partir. Ouais. Peut-être que plus tard tu créeras un compte, mais c'est pas le moment.
D'accord.
Donc bien sûr, il n'y a pas de création de compte.
Parfait, merci. Alors en tout cas, c'est très très clair. Ça a l'air hyper efficace. Et sachant qu'en plus, vous avez fait plein d'intégrations avec plein d'outils, en tout cas pour les commerces en ligne, je pense que n'importe quel commerçant en ligne peut intégrer votre solution en France. D'un point de vue coulisses, moi j'aimerais savoir justement comment vous avez structuré, parce que la société existe depuis 3 ans, si mes souvenirs sont bons, c'est ça ? Ouais. Et vous avez déployé le produit quoi, depuis début 2019. Comment vous avez structuré Alma ? Comment est-ce que vous calculez justement ce fameux scoring de risque ? Comment est-ce que vous êtes structuré ? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça ? Et quand même rentrer dans la technique, parce que je sais que tu es CTO également, donc je pense que ça peut intéresser un certain nombre de personnes, justement, quand on parle d'algorithmes, que tu nous expliques vraiment dans les coulisses comment ça se passe chez Alma.
Oui, absolument. Alors, ce que je te propose, c'est que je vais commencer par rester un peu en surface sur les grands principes, puis après, on va descendre. Et alors, il ne faut pas me faire descendre trop loin parce que c'est un peu mon tropisme naturel. Mais déjà, juste dans les grands principes, je pense qu'il y a un truc qui est important. Et encore une fois, c'est vrai pour Alma, mais c'est vrai pour quasiment toutes les startups. Je pense que la plupart des startups, tout le monde sait très bien depuis le début quel est le endgame, d'accord ? Depuis le premier jour d'Alma, on savait très bien à quoi allait ressembler cette solution de paiement plusieurs fois. Comme tu l'as compris, on n'était pas les premiers sur le marché, donc en plus, on savait déjà à quoi ressemblaient les solutions de paiement fractionnées des acteurs historiques. On savait ce qu'on voulait faire comme eux et aussi ce qu'on voulait faire différemment. Donc la vision, elle était assez claire. La vraie question dans ces cas-là, et ce qui fait à mon sens la différence entre une startup qui va vraiment fonctionner et une qui va marcher moins bien, c'est dans quel ordre tu mets les pas. Comment est-ce que tu vois, dans quel ordre tu vas tacler les problèmes, d'accord? Et nous, chez Alma, on avait évidemment deux problèmes très spécifiques au paiement plusieurs fois. Le premier, c'est les aspects réglementaires, c'est-à-dire que simplement tu fais une forme de, alors c'est pas du crédit, c'est de la facilité de paiement, mais grosso modo c'est un produit financier, un produit de financement des achats mis à disposition du client. Ça, c'est encadré. Tu peux pas faire n'importe quoi, évidemment. Donc, comment est-ce que tu fais pour rentrer dans un cadre légal sans y passer des années? Parce qu'on parle, quand on va prendre une licence d'établissement de crédit, on y passe littéralement des années. Et deuxième sujet, comme tu l'as mentionné, c'est le scoring. C'est-à-dire que, bien sûr, nous, on prend le risque pour le marchand. Si jamais on accepte une transaction et que le client ne rembourse pas, c'est nous qui prenons ce risque à notre charge. Et donc, comment est-ce que tu fais pour gérer ce risque? Et pareil, tu es sur des technos, enfin, je veux dire, tu t'imagines bien que c'est un sujet qui est tentaculaire, qui est d'ailleurs un sujet qui ne sera jamais terminé, chez Alma. Mais qu'est-ce que tu fais? Avec quoi tu te lances? Est-ce que tu travailles pendant 3 ans en laboratoire? Est-ce que tu achètes des sets de données pour backtester derrière? En gros, quel investissement tu mets en amont avant de te lancer? Et nous, on s'est dit un truc tout simple qui est, OK, on pense qu'il y a un marché. On est assez convaincu qu'il y a un truc à jouer, mais tant que tu n'as pas essayé, tu n'as pas essayé. Et donc, c'est très dur pour nous d'investir massivement sur de l'infrastructure si jamais on n'est pas convaincu qu'il y a un énorme marché. Donc, ce qui nous a vraiment animé dans la première année de l'entreprise, c'était vraiment, OK, comment est-ce qu'on fait pour aller le plus vite possible de rien du tout à une transaction? Donc, on avait cet objectif qui était évidemment tout petit, qui était de dire, et à la fois énorme, qui était de dire, il faut qu'on ait branché un marchand et qu'on ait fait une transaction. Et à partir du moment où on a fait ça, on peut commencer à discuter du futur. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans la technique réglementaire, mais pardon.
Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que même si ça n'est que, entre guillemets, un test, ça doit être réglementairement et juridiquement et à tout point de vue techniquement également, je dirais, dans les clous. C'est-à-dire que tu ne peux pas vraiment tester ça comme ça à la volée, comme tu testerais avec une landing page, l'appétence d'un produit. Si derrière, tu fais du transactionnel, donc ce qui est intéressant, c'est de savoir comment vous avez construit au départ en mode, entre guillemets, light avant d'aller chercher ces agréments d'établissement de paiement et le deuxième agrément, je ne sais plus lequel. Tu m'avais dit que vous aviez deux agréments.
La société de financement.
Voilà, société de financement. Justement, quelle a été cette première étape, sans trop non plus rentrer dans les détails, mais qu'on comprenne bien que ça s'est fait en deux phases, on va dire.
Oui, absolument. Le vrai sujet, tu l'as dit, tu peux pas faire n'importe quoi, et encore heureux. Il y a des secteurs où tu peux être beaucoup plus itératif. Il se trouve que dans le paiement et dans le crédit, bon, en tout cas ce qui s'apparente à du crédit, tu as des règles qu'il faut suivre. Et donc, si tu veux, nous ce qu'on a cherché, c'est de dire OK, on veut pas. La solution de long terme, tout le monde la connaît. Réglementairement, t'es une banque, d'accord? Alors après, t'as des systèmes un tout petit peu plus light qu'une banque. Tu l'as dit tout à l'heure, l'établissement de paiement pour la gestion des paiements et ce qu'on appelle la société de financement, ce qui est en gros une banque qui ne prend pas les dépôts. Donc l'ASF, c'est un statut d'ailleurs purement français, qui est exactement un établissement de crédit qui ne prend pas les dépôts à terme des clients. Donc en fait, tu peux faire, quand t'es SF, tu peux faire tout type de crédit. T'as aucune restriction, mais tu ne peux pas le financer avec du dépôt à terme. Ce qui est ça dans le métier de banquier, évidemment. Donc c'est plus simple. Et ça suffit. Enfin, c'est espèce de statut un peu canonique pour mettre en place une boîte de paiement plusieurs fois. C'est des questions que nos concurrents historiques ne se sont pas posées puisque eux, c'est des banques. Dans le sens d'agrément, ils l'ont déjà. Il se trouve que nous, on n'a pas structuré cette activité de cette manière-là. On est rentré dans un système basé sur du rachat de créances qui avait le gros avantage de nous permettre de nous lancer sans devoir prendre un agrément ou sans devoir devenir nous-mêmes agents d'établissement de crédit. Il faut savoir qu'en France, en gros, ça aurait été extrêmement compliqué pour nous de trouver un établissement de crédit qui allait être accepté de nous prendre comme agent, en gros de prendre Alma comme entreprise agissant au nom de cette banque, d'accord. Donc on s'est lancé là-dessus. Évidemment, tu vois, c'était pas mal de boulot. On a bossé avec des avocats pendant quand même quelques semaines sur le sujet pour comprendre. On en a parlé évidemment avec le régulateur pour nous assurer que c'était dans les clous. Mais l'avantage de cette manière de faire, c'est que c'était extrêmement light. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas besoin, encore une fois, d'un quelconque agrément. Et ça nous a permis de nous lancer extrêmement vite, en fait, sur le sujet. Maintenant, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le endgame, on le connaissait depuis le début. Et d'ailleurs, je veux dire, c'est pas rocket science, hein, tout le monde, quiconque regarde ce marché, comprend tout de suite que c'est ça le endgame. Mais aujourd'hui, ça fait quand même un certain moment qu'on travaille sur ces deux licences dont on a parlé, mais on travaille en sachant évidemment qu'il y a un marché derrière. Donc tu travailles pas à vide, c'est beaucoup plus motivant, tu vois, de travailler comme ça que de travailler entre guillemets à vide avant d'avoir tes premiers clients.
Parfait, merci beaucoup. Ça, c'est très, très intéressant, hein, en tout cas, d'être revenu sur ce sujet-là. Au niveau des algos, comment est-ce que vous êtes capable de déterminer, de dire en temps réel, tu disais que vous étiez synchrone, donc à ton client, que ce soit en ligne ou en boutique, s'il peut payer en fractionné et automatiquement de payer le commerçant. Comment est-ce que vous parvenez à faire ça?
Ouais, c'est le sujet. En fait, dans le paiement, la gestion du risque client, dans le paiement fractionné, c'est un type de risque qui est très différent du risque client que tu vas trouver dans du crédit conso renouvelable assez classique, d'accord, ou amortissable assez classique. Donc en fait, les spécificités, c'est que tu es temps réel. Tu le fais sur la base de très peu de données parce que justement, comme tu es dans du temps réel, tu es dans un tunnel retail. Mmh. Si tu commences à demander toute la vie du client, si tu veux, il y a un moment, le client, il va aller ailleurs. Donc, tu dois avoir un tunnel qui est très, très fluide. Et tu dois avoir un haut taux d'acceptation. Et ça, c'est très important aussi. Si jamais tu acceptes seulement 2 clients sur 3, par exemple, le commerçant vient te voir pour dire, bah, en fait, moi, ça ne va pas, quoi. Parce que, en gros, c'est-à-dire qu'il y a 1 client sur 3 qui choisit Alma, qui est hyper déçu parce qu'il est refusé. Et en fait, moi, ça rejaillit sur ma marque. Donc, en fait, je vais juste vous débrancher. Donc, quelque part, 2/3, c'est égal à 0. Bon. Mm-hmm. Ce qui n'est pas vrai dans le crédit conso classique. Alors, comment est-ce qu'on fait le scoring? Ben, on a vraiment exactement eu la même approche que ce que je t'ai décrit. C'est-à-dire que, on a beaucoup regardé ce qu'on pouvait faire. On a regardé les analyses statistiques. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de littérature. Déjà, on n'est évidemment pas les premiers à travailler là-dessus. Donc, t'avais beaucoup de littérature là-dessus. Mais, on a regardé des bases de données qu'on pouvait acheter. On a regardé des algos de machine learning qui marchaient, dans ce système. Et on s'est rendu compte d'un truc qui est qu'on parlait à vide. Et au bout de 3 semaines, on s'est dit, en fait, là, on est en train de travailler à blanc. C'est-à-dire que on parle de plein de trucs super compliqués. La réalité, c'est qu'on n'a jamais vu à quoi ça ressemble un client. Et que ça se trouve, on dit des trucs qui sont très intelligents. Et ça se trouve, on dit des trucs qui n'ont aucun intérêt. Et donc, on a complètement changé notre fusil d'épaule et on s'est dit, OK, on va le faire autrement. On va lancer Alma avec aucun scoring. Zéro. À la base, le seul scoring qu'on avait au début, c'était si c'est une carte prépayée, on refuse. Les cartes prépayées, on savait que c'était pas bon. D'accord?
Vous avez fait de façon empirique.
Exactement. Et ensuite, on va se baser sur ce qu'on observe du marché, comment est-ce qu'on se fait frauder, qu'est-ce qui se passe mal, et c'est ça qu'on va attaquer. Et là maintenant, évidemment, on a quand même pas mal de courses, hein. On a beaucoup bossé là-dessus. On a pris évidemment, t'imagines, quelques fraudes assez massives. On a beaucoup appris. Aujourd'hui, on est sur un système, je dirais pas, on est encore très perfectible, mais on est sur un système qui est déjà, tu vois, nous permet d'avoir le meilleur taux d'acceptation du marché de très très loin, tout en étant absolument rentable. Donc, je dirais qu'on est loin d'avoir fini, mais on est aussi loin d'avoir commencé. Je pense qu'un des trucs intéressants, si tu veux, c'est, j'ai pas eu de machine learning tout à l'heure. Alors ça, c'est intéressant. Je vais peut-être y revenir un peu plus. Aujourd'hui, notre système, enfin aujourd'hui, on va dire hier, notre système était basé beaucoup sur des règles. C'est-à-dire que, en gros, tu vois que tu te fais beaucoup frauder de telle ou telle manière. Par exemple, tu sais que telle carte, tel émetteur de carte est fortement corrélé à la fraude parce que il fait un KYC qui est extrêmement light et que du coup, les fraudeurs l'utilisent massivement par rapport aux banques traditionnelles, par exemple. Et donc, du coup, tu dis bon, bah en fait, je sais que cet émetteur de carte, j'ai 50% de taux de défaut, donc c'est pas possible. Donc, en fait, je coupe cette carte. Ok, ça c'est simple. Après, tu vois un autre émetteur de carte qui va avoir 8% de défaut. 8% de défaut, c'est colossal, parce qu'on parle de taux de défaut cumulatif, donc c'est-à-dire qu'en annualisé, c'est quasiment 100% de défaut, donc c'est monstrueux. Mais 8% de défaut, c'est en même temps pas tant que ça, parce que si tu peux pas juste le couper. C'est-à-dire qu'il y a aussi 92% des clients qui vont te rembourser. Et donc là, tu analyses un peu plus, tu vois qu'en fait, tes défauts, ils sont massivement concentrés sur les hauts paniers. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est un type de carte qui va être plutôt sur des populations qui sont moins aisées, et que du coup, si tu as cette carte-là avec un panier qui fait plus de 2000 euros, en fait, il y a un problème, on doit te refuser. Donc là, tu lances une nouvelle règle avec un « et », d'accord ? Si ça et ça, dans ce cas-là, je refuse.
Oui, tout à fait.
Et puis en fait, tu continues, et tes règles deviennent de plus en plus compliquées. Si ça et ça et ça, et puis ça ou ça ou ça. Tu vois, et en fait, ta combinatoire, elle explose, et il y a un moment, le cerveau humain, il est plus capable de comprendre. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas toujours mettre la barre un peu trop haut. Tu vas toujours en prendre un peu plus pour te protéger contre le défaut. Et en fait, tu crées des entonnoirs. Et à la fin de ton entonnoir, quand t'as mis trop d'entonnoir, ton taux d'acceptation, il est pas bon. Et ça, c'est pas très grave en crédit conso, comme je disais tout à l'heure. Par contre, C'est très très emmerdant en paiement plusieurs fois parce qu'il y a un moment ton marchand vient te voir pour te dire en fait vous refusez trop de mes clients. Et c'est pour ça que tu passes, quand tu commences à avoir assez de données, à des systèmes type machine learning, qui sont des systèmes entre guillemets mous, qui apprennent eux-mêmes. Pour le dire schématiquement, un système de machine learning, c'est un système à qui tu dis voici les inputs, voici les paramètres que tu regardes, et c'est toi qui dois créer toutes les règles avec des if, avec des et, avec des ou. D'accord? C'est la machine elle-même qui apprend, d'où le terme de machine learning, c'est la machine qui apprend comment tu combines ces inputs pour en faire un résultat qui est un scoring. Alors pourquoi on n'a pas fait de machine learning depuis le début? C'est parce que tu as besoin de données. Et c'est, on revient exactement à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que au début notre scoring était très light. Par contre, on capturait dès le début beaucoup de données et ça permettait en fait de backtester, c'est de dire en fait dans un an quand on aura ce monceau de données, on pourra utiliser les données du tout début pour entraîner un modèle de machine learning. Alors que ces mêmes données ne nous servaient à rien il y a un an parce qu'on n'avait pas cette intelligence.
Oui, tout à fait. Donc, pour mettre ça en place, vous avez dans vos équipes des data scientists. Tu pourrais nous dresser un portrait d'Alma, sachant que vous avez fait de mémoire un site de série A avec Invest et Isaïe, c'est ça? Ouais. Vous avez certainement une équipe un peu plus costaud maintenant. Tu peux nous présenter Alma au niveau humain, RH?
Ouais, absolument. Bah, ça peut être le plug naturel pour dire qu'on recrute. J'en profitais. Donc Alma aujourd'hui c'est une quarantaine de personnes. On vient de se parler aujourd'hui puisque demain ce sera 45. Bon, on n'en fait pas 5 par jour, mais il se trouve qu'on a un petit gap. Ok, donc concrètement Alma c'est quoi? Alma évidemment c'est l'engineering. Tu as une dizaine de personnes côté engineering et produit. C'est évidemment un pôle commercial. Donc des commerciaux, du marketing, customer success, un pôle opérationnel, ça c'est important, ça c'est pas forcément ce que tu trouves dans toutes les startups, mais c'est un pôle qui va s'occuper à la fois du support client, mais aussi du recouvrement. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe quand le paiement se passe mal, d'accord? Et évidemment, c'est le type de business dans lequel tu as pas mal de personnel. Ensuite, tu as un pôle risque, donc une équipe dédiée au risque. Alors là, comme tu peux t'en douter, c'est des profils beaucoup plus, à la fois des profils opérationnels, c'est-à-dire vraiment de revue manuelle de transactions, hein, pour comprendre ce qui se passe dans des cas précis, et des profils beaucoup plus data. Donc on a des data scientists, on a des chercheurs qui vont s'occuper beaucoup plus du long terme, donc du scoring un peu technique pour les data pudiquement, donc tout ce qui est machine learning, etc. Et puis enfin dans les fonctions centrales, tu vas retrouver ce que tu retrouves dans les startups standards évidemment, mais évidemment aussi tu vas retrouver ce qui est spécifique au paiement plusieurs fois, c'est-à-dire la conformité et la finance.
D'accord, parfait.
Et on recrute sur à peu près tous les postes que j'ai cités, donc ça va être
petit coup de pub alors.
La question simple.
Ok, parfait. Merci beaucoup. Au niveau, parce que tu disais que le marché était très mal adressé, hein, donc qu'il était énorme pour la France. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi la stratégie que vous avez à 3-5 ans dire un petit mot sur, à chaque fois je reviens avec ce sujet-là, mais ça m'intéresserait que tu nous dises un mot sur Klarna, qui est clairement l'acteur connu, en tout cas historiquement.
Alors, l'international, c'est toujours un sujet, je pense, intéressant, justement, parce que c'est un peu un thème, tu vas remarquer que c'est un thème récurrent, on pourrait me qualifier d'obsessionnel là-dessus, mais ce qui est important pour nous, c'est de mettre les pas dans le bon ordre, d'accord? Et donc, c'est ce qu'on a fait, en tout cas, ce qu'on s'est forcé de faire sur les aspects réglementaires et scoring. Et je pense que l'international, c'est le prochain sujet sur lequel il faut qu'on soit extrêmement discipliné, extrêmement rigoureux. C'est-à-dire que, évidemment, Alma a des vocations européennes, c'est très clair. Après, il faut savoir que le paiement, c'est un business qui est très local, c'est-à-dire que tu payes pas pareil en Allemagne et en France. Je prends peut-être une petite aparté là-dessus, mais en France, grosso modo, tes paiements en ligne, c'est à peu près entre 85 et 80% de cartes et 10 à 15% de PayPal. En Allemagne, la carte, c'est 20%. Ouais. C'est-à-dire qu'en Allemagne, si tu proposes le paiement par carte, tu te coupes de 80% du marché. Ils sont beaucoup plus tournés vers ce qu'on appelle les OBEP, c'est-à-dire des systèmes de paiement par connexion bancaire directe. Et donc, chacun des paiements a ses spécificités. Il se trouve que le paiement plusieurs fois, c'est encore plus local que le paiement. C'est-à-dire que non seulement le client final paye différemment, en Italie, c'est beaucoup de cash on delivery, par exemple, mais en plus, il ne fraude pas de la même manière. Et donc, du coup, je pense que l'erreur majeure que Alma ne veut pas faire, c'est de lancer une présence commerciale dans, je ne sais pas, 10 pays en 2021. Tu vois, c'est juste, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, notre stratégie, elle est assez simple. C'est de dire, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est aider les commerçants français. Donc, on a un focus sur les commerçants français. Et un truc que les commerçants français nous demandent énormément, surtout les grands commerçants, parce qu'on travaille avec, tu vois, des grandes enseignes comme La Fée Marabouté, tu vois, qui a plus de 100 magasins. Et ce qu'eux nous demandent, c'est, bah, écoutez, nous, on a besoin de vous à l'étranger. Et donc, on va commencer par ouvrir pour les commerçants multinationaux l'acceptation des paiements en plusieurs fois pour leurs clients non français. D'accord. Donc, on va travailler avec les commerçants français pour les clients non français. L'avantage de faire ça comme ça au début, c'est que tu évites, tu concentres en fait tes efforts sur les opérations et sur le risque, mm-hmm. et tu évites de devoir créer une présence commerciale et ouais. une présence marketing locale.
Ouais, tout à fait.
Donc ça, c'est important. Ouais. Et ensuite, dans un temps 2, ce sera plutôt 2022, on va utiliser tout ce qu'on va apprendre sur tous ces marchés pour savoir où est-ce qu'on commence à ouvrir des bureaux internationaux pour commencer à acquérir des commerçants non français.
Ouais, ouais. Et Klarna?
Donc Klarna, bon, Klarna, c'est un peu toujours l'éléphant qui est dans la pièce. Klarna, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est un peu les anciens du paiement en trois fois. Ils ont été créés en 2005, donc ils ont un peu d'avance sur Alma. Écoute, nous, notre point de vue, encore une fois, de toute façon, l'histoire va vite nous dire si on a raison ou pas. Notre point de vue, c'est que la France, c'est le marché où c'est le plus difficile de lancer une solution de paiement plusieurs fois en Europe, pour deux raisons principales. La première, c'est qu'en France, tu n'as pas de fichier positif. Donc, le fichier positif, ce qu'on appelle le credit score en anglais, type le système FICO aux États-Unis, c'est en fait un système de partage des données entre acteurs du crédit qui te permet non seulement de savoir si quelqu'un a remboursé ses crédits, mais surtout quel type de crédit il a pris, comment est-ce qu'il a remboursé, et en fait lui donner un score, une sorte de score de confiance que tu peux lui attribuer. Et ça, c'est un système qui permet de scorer quelqu'un même quand tu ne le connais pas. Donc t'as pas de fichier positif en France, d'accord? C'est un des très rares pays au monde où tu n'as pas de fichier positif. Tu as un fichier négatif qui s'appelle le FICP, qui est un fichier en fait des incidents de paiement, qui regroupe toutes les personnes qui ont fait défaut. Mais tu sais pas si quelqu'un est dans une situation financière extrêmement intermédiaire ou en fait il est toujours en retard sur ses crédits, il n'a jamais pris un très gros crédit, donc en fait tu peux pas lui faire confiance à tel niveau. Et donc en fait en France t'as accès à beaucoup moins de données pour scorer ton client. Le deuxième problème, c'est que le taux d'usure est bas. Alors taux d'usure, c'est le taux maximum au-delà duquel tu ne peux pas prêter. Évidemment, quand je dis comme ça, ça fait un peu lever le sourcil. Si attends, le taux d'usure est bas, c'est peut-être pas par hasard qu'on n'a pas envie de prélever des taux usuriers sur les clients. Et évidemment, ça part d'un bon sentiment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu as en fait un manque d'informations, donc au précis de la France, un manque de fichiers positifs, tu fais face à un risque statistique plus élevé, puisque naturellement, tu as plus de statistiques, d'accord ? Et parfois, tu peux compenser ça par un prix plus élevé. Tu peux dire, écoutez, monsieur le client, j'arrive pas à vous scorer, j'ai pas assez de données pour être sûr de moi, donc je vais vous refuser. Sauf si vous acceptez de payer plus cher, d'accord ? Et en fait, c'est votre choix à vous. Moi, je vous impose rien, mais simplement, je ne vous connais pas assez pour vous faire confiance. Et donc, quelque part, avoir un taux d'usure qui est un peu plus élevé permet de compenser le manque d'informations lié à l'absence de fichiers positifs. Quand tu as les deux à la fois, ça rend le succès dans un marché extrêmement compliqué, d'accord ? Et c'est pour ça, en fait, que quand on s'est lancé en France, les seuls acteurs qui étaient sur ce marché, des acteurs bancaires historiques, en fait, Klarna, ils ont déjà essayé de venir en France et ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que Klarna a été créé en Suède et que la Suède est peut-être le pays du monde où le fichier positif est le plus riche, d'accord ? Le plus utile. Et donc, ça a été très compliqué pour Klarna. C'était très compliqué pour Klarna de s'adapter au marché français. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au lieu d'aller en France, en fait, ils ont jeté l'éponge et ils se sont dit bon, on va plutôt se concentrer sur le Royaume-Uni et sur les États-Unis, ouais. qui sont des pays avec fichier positif. Qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on fait aujourd'hui, et puis on verra la France après. Est-ce qu'ils vont venir en France un jour ? Évidemment, oui. Mais la conviction qu'on a chez Alma, c'est que, encore une fois, je reviens à mes questions d'ADN. Tu vois que j'ai quelques marottes comme ça. Ils ont pas, je pense, un ADN qui leur permettra d'être extrêmement rapidement efficace sur le marché français. Ça va être un vrai combat contre eux-mêmes pour être capable de comprendre comment fonctionne ce marché. Est-ce qu'ils peuvent y arriver ? Probablement. Enfin, je veux dire, c'est quand même une très belle boîte. Il n'y a pas de question là-dessus. Mais on a la conviction chez Alma qu'on sera meilleur.
Ok, parfait. J'aimerais juste qu'on finisse avant que je te demande quel bouquin tu nous recommandes. Sur la culture d'Alma, ça m'avait marqué quand on avait fait le premier enregistrement, parce que c'est une culture qui est très forte et à laquelle j'adhère beaucoup. Donc, je voulais que tu nous en dises un petit mot.
C'est toujours un peu le, je sais pas quelle métaphore utiliser, je vais rester très prosaïque, mais tu as toujours cette notion de, là on a beaucoup parlé de quoi chez Alma, on a parlé du produit, on a parlé des efforts commerciaux, du développement, on n'a pas parlé du nombre de clients, on a plus de 2000 clients maintenant, de clients marchands, mais tout ça en fait c'est des choses qui ne sont possibles que parce que tu as la bonne équipe pour le faire. Et la bonne équipe, intrinsèquement, c'est évidemment recruter les bonnes personnes, mais surtout c'est créer l'environnement dans lequel les bonnes personnes performent. Et personnellement, moi, je vois mon travail, je pense que 80% de mon travail aujourd'hui, c'est plutôt de faire les choses, mais c'est de créer l'environnement, ou d'aider à créer l'environnement, je suis pas du tout seul à le faire, dans lequel des personnes extrêmement talentueuses sont capables de donner le meilleur d'elles-mêmes. Et ça passe par beaucoup, beaucoup de processus, de valeurs, de manière d'être, mais par l'instauration d'une culture forte, et de valeurs qui sont partagées. Alors, je vais pas te faire la liste de toutes nos valeurs, mais, si tu veux, nous, on a quand même quelques grands concepts important pour nous. Si j'en parle rapidement, on a des notions de franchise radicale, c'est-à-dire
la franchise radicale.
Exactement. Je pense que ça se voit. Hein. J'aime bien être ça se voit dans ma tête. Mais franchise radicale. Et j'insiste sur le radical. C'est en fait la franchise radicale, c'est avoir le courage de dire aux personnes ce que tu penses d'elles. Et je dis bien le courage, parce que quand t'es quelqu'un de bienveillant, et j'espère que chez quelqu'un on a que des personnes bienveillantes, c'est pas évident de dire à quelqu'un qu'il a fait quelque chose de mal. Tu vois, tu t'es trompé, t'as fait une erreur. Quelque part, c'est se mettre en danger. Ça peut être une amitié, ça peut être une relation de travail. Donc c'est prendre ce courage managérial, d'aller voir quelqu'un pour lui dire je pense que tu peux mieux faire, d'accord. Sauf que nous, ce qu'on pense, c'est que la médiocrité, elle se cache dans les non-dits, d'accord? Elle se cache dans tout ce que tu t'es pas dit, tout ce que t'as laissé sous le tapis. On pense que la seule manière d'être vraiment efficace, efficient, de bien travailler ensemble, c'est de se dire les choses vraiment clairement. Et je pense que la plupart des gens seraient pas à l'aise avec le niveau de franchise qu'il y a en interne chez Alma. Comme tu l'as dit, une culture qui est très forte, mais c'est aussi un parti pris. Les personnes qui, pour le coup, apprécient cet environnement adorent travailler chez Alma. Il y a un autre concept qui est très important quand on parle de franchise radicale. C'est ce qu'on appelle l'humilité radicale. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est deux mots qu'on met très, très rarement ensemble, d'accord ? L'humilité, c'est souvent vu comme une forme d'effacement, tu sais, traditionnellement, c'est-à-dire un manque d'ego, une sorte de modestie, de ne pas se mettre en avant. Nous, ce qu'on pense chez Alma, c'est que c'est pas du tout ça. C'est que l'humilité, pour nous, c'est la capacité de te comprendre toi-même, précisément, à la fois dans tes forces et tes faiblesses. Donc l'humilité, c'est pas la modestie ou la fausse modestie. Si t'es fort dans quelque chose, je pense qu'on est très fort en humilité, et dans cette phrase est naturellement un oxymore. Si tu sais que t'es fort quelque part, ça a aucun sens, et c'est même contre-productif d'être faussement modeste, tu vois, de dire que t'es pas très bon, d'accord. À l'inverse, par contre, personne n'est parfait, et là où t'es pas bon, il faut le dire, faut en être conscient, faut l'accepter. Il faut être capable de le dire, d'avoir cette vulnérabilité, si tu veux, en interne, de dire je me mets à nu devant toi, et voilà, tu sais que je suis pas bon là-dedans, donc tu combines ça avec la franchise radicale, et tu as une culture où tu peux à la fois donner du feedback extrêmement clair, et tu sais que tu donnes à quelqu'un qui le reçoit et qui est content de le recevoir parce qu'il sait que ça l'aide à progresser, parce qu'il n'est pas parfait, parce que personne n'est parfait. Donc du coup, ça se traduit notamment par des feedbacks 360, c'est-à-dire qu'en fait des systèmes de revue où tu vas noter à la fois ton manager va noter, mais tu vas noter ton manager, et évidemment ça concerne tout le monde, et toutes les personnes avec qui je bosse en direct vont me faire aussi un feedback, et ce que je fais pas bien, ils vont me le dire, tu vois, ce qui me permet de m'améliorer. Donc c'est un truc qui est très fort, tu vois, que tu vas trouver chez toutes les strates.
Merci beaucoup Louis. Il est temps de clôturer malheureusement cette discussion passionnante. Un immense bravo pour le chemin parcouru. Alors avant qu'on digère tout ça, est-ce que tu peux nous recommander une lecture? Je sais ce que tu vas donner comme bouquin, et c'est marrant, je l'ai eu pour Noël, donc
génial, d'accord, je t'encourage à le lire. Est-ce que tu l'as commencé?
Non, pas encore.
Pas encore.
Donc,
bon, je t'encourage à le lire. Alors, le bouquin en question, c'est Dune, voilà. De Frank Herbert. Alors, si tu demandes un bouquin, c'est toujours très très dur. Pourquoi est-ce que je cite Dune? At face value, parce que c'est je pense le meilleur bouquin de SF que j'ai jamais lu. C'est juste absolument génial. Bon, c'est considéré comme le chef-d'œuvre absolu de la science-fiction, et c'est pas par hasard. C'est absolument génial. Ce qui est assez génial dans ce bouquin, c'est que c'est un bouquin qui se lit en fait qui est extrêmement dense. Pour ça, je t'encourage à le lire. Moi, quand je l'ai lu la première fois, je relisais chaque page 2-3 fois pour être sûr de bien comprendre. Je me refaisais les pages une par une. Et en fait, c'est un bouquin qui a des niveaux de lecture. C'est-à-dire que si tu le regardes un peu de loin, c'est un bouquin d'aventure. C'est un récit d'aventure, de science-fiction, avec des gentils, des méchants, etc. Quand tu rentres un peu plus profondément, en fait, c'est un bouquin sur l'environnement, sur l'écologie et l'influence de l'environnement sur le caractère des individus. Et tout à l'heure, tu me parlais de culture. Ben, c'est exactement ça, tu vois. La culture, c'est la création d'environnement qui va influer et qui va aider à tirer le meilleur de toutes les personnes qui sont chez toi, qui travaillent dans ton entreprise. C'est la même personne placée dans deux contextes différents peut donner deux résultats extrêmement différents, d'accord ? Et nous, on essaie de faire en sorte qu'Alma soit un contexte qui permette à chacun de devenir la meilleure version d'elle-même. Alors, dans Dune, comment est-ce que ça se matérialise dans Dune ? Dune s'appelle Dune parce que c'est une planète désertique dans laquelle il fait extrêmement chaud, il n'y a pas d'eau, les conditions de vie sont absolument épouvantables. Et du coup, la population locale qui vit dans Dune, qui a été capable de s'adapter à ces conditions de vie, on se rend compte dans le bouquin qu'en fait, c'est des combattants qui sont absolument redoutables, bien meilleurs que tous les autres dans toute la galaxie, parce que justement, ils ont été éduqués sur la planète la plus difficile. Tout à l'heure, je te parlais du marché français qui était plus dur. Et en fait, nous, notre vision d'Alma, c'est un peu ça. C'est finalement, Alma, notre vision d'Alma, c'est qu'on est en train de créer une boîte de paiement plusieurs fois dans le marché européen qui est le plus antagoniste, d'accord, le plus difficile. Si on est capable de le faire, si on est successful dans le marché le plus difficile, on est convaincu qu'on sera capable d'être meilleur que des boîtes qui sont créées dans des marchés plus faciles parce qu'elles ont eu moins besoin que nous, tu vois, de devenir dur, de devenir aiguisé. Voilà. Donc le choix de Dune, il est à la fois, il faut le lire, et à la fois parce qu'évidemment c'est une petite référence à moi.
Merci beaucoup Louis. À bientôt.
Merci à toi Solène.
Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine !